Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique spécial régional, quelle stratégie pour l'entre-deux-tours, quelle riposte pour les partis de gouvernement face aux raz-de-marée frontistes, mais aussi déjà les toutes premières controverses sur les leçons à tirer de ce premier tour. Émission spéciale, je vous le disais, avec deux partis, deux invités. Tout à l'heure, nous recevrons Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne, proche d'Alain Juppé. Et pour cette toute première partie, dans ce studio, Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille. Bonsoir.
Bonsoir.
Et dans ce studio, pour vous interroger, Roselyne Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Alors là, il est 18h10, presque 11, c'est donc fait dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Les listes ont été déposées, je dis les listes, il y en a deux uniquement, celle de Marine Le Pen, celle du candidat de droite Xavier Bertrand. Et vous, Laurence Rossignol, vous étiez jusqu'ici conseillère régionale PS de Picardie. Donc ni vous, ni aucun de vos camarades socialistes ne siégera plus pendant 6 ans. Comment ça va ?
Écoutez, c'est pas un bon moment hein, dans une vie politique que celui-là. C'est pas tant le fait que moi je ne siège plus, c'est le fait que nous devions retirer nos listes parce que nous faisons face dans cette région à un score assez spectaculaire du Front National, ce qui nous oblige à recaler les priorités et les enjeux. La priorité dans notre région, ce n'est pas d'avoir des élus. La priorité, c'est de faire barrage à Marine Le Pen et au Front National.
Oui, mais...
Et de prendre une décision qui est la seule décision responsable que nous pouvions prendre dimanche soir. Pierre de Saint-Ignon, qui était notre tête de liste dans cette grande région, à 20h, s'est adressé à Xavier Bertrand en lui disant « Peut-être, en gros, peut-être on peut parler ». Nous sommes tous les uns et les autres des Républicains.
Personne ne peut gagner seul.
Voilà, nous sommes les uns et les autres des Républicains. Nous sommes les uns et les autres très inquiets de la montée du Front National. Et Xavier Bertrand lui a sèchement claqué la porte au nez. Et quelques instants plus tard, Nicolas Sarkozy a fait la même chose. Donc dès lors, il fallait être responsable pour deux. Et être responsable pour deux, c'était retirer nos listes. Nous n'avions pas beaucoup d'hypothèses. L'autre hypothèse eût été de se maintenir. Aujourd'hui, j'entends les électeurs socialistes, les militants qui sont très perturbés par cette décision.
Beaucoup disent même qu'ils ne peuvent pas mettre un bulletin Bertrand dans l'urne. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Je le comprends. Ce que je veux leur dire, c'est que si nous avions décidé de nous maintenir en accroissant le risque de voir Marine Le Pen élue dans une triangulaire, probablement le même nombre d'électeurs socialistes se serait adressé à nous en nous disant « Ce que vous faites est irresponsable, vous nous demandez de retourner voter pour vous alors que la triangulaire peut lui être favorable. » Donc, vous savez, dans une mauvaise situation, il n'y a pas de bonne solution unanime. Il faut arbitrer entre des solutions qui sont toutes désagréables. Celle que nous avons choisie était la solution qui était la plus responsable au regard de l'enjeu de dimanche prochain.
Et par exemple, quand des militants ou des électeurs socialistes vous disent c'est un retrait qui se fait sans compensation, Nicolas Sarkozy hier soir refusait de dire merci à la gauche, et puis il y a un risque de double peine, c'est vrai, pas d'élus, et le Front National qui l'emporte quand même. Qu'est-ce qu'on peut répondre à l'encore ?
C'est possible, mais nous aurons, nous de notre côté, fait ce que nous devions faire pour accroître les chances que le Front National ne l'emporte pas. J'entends les militants socialistes et les électeurs de gauche qui disent que la droite, en fait, se comporte pas bien dans cette affaire. Et il eût été bienvenu que Nicolas Sarkozy, dans ses prestations télévisées, que Xavier Bertrand, quand il a eu l'occasion de s'exprimer, ait un mot aimable à l'égard des électeurs de gauche, un mot respectueux à l'égard de Pierre de Saint-Ignon et un mot républicain à l'égard des socialistes et de la gauche en général. Visiblement, ce n'est pas leur bataille, ce n'est pas comme ça qu'ils envisagent le deuxième tour. Ils restent sur une ligne qui est extrêmement crispée et sectaire, qui consiste à essayer de tenter d'apparaître comme étant le seul recours contre le Front National. En aucun cas, ils ne seront le seul recours contre le Front National. Si nous arrivons ensemble à battre Marine Le Pen, nous y serons parvenus parce que les électeurs de gauche se seront mobilisés, et je ne suis pas sûre que ça suffise par ailleurs. Si nous n'y parvenons pas, ça prouvera également que seul on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, la question qui est posée n'est pas celle des petits arrangements. Moi, il n'y a pas de compensation, fort heureusement. Je n'avais pas l'intention de demander des compensations à Xavier Bertrand.
Mais alors qu'est-ce que vous demandez à Xavier Bertrand pour que les gens de gauche votent pour lui ?
Eh bien, de justifier... c'est pas ce que je lui demande pour que les gens de gauche votent pour lui, puisque de toute façon, nous nous sommes retirés et moi, je vais voter Xavier Bertrand. Ce que nous lui demandons aujourd'hui pour avoir une dynamique autour de lui, c'est de dire qu'il se situe dans le camp des Républicains, qu'il est là, investi dans ce deuxième tour, de représenter l'ensemble des Républicains, l'ensemble de ceux qui pensent que le Front National est une menace grave pour notre région, pas simplement sur le plan économique, mais aussi sur le plan du vivre ensemble, sur le plan de l'identité culturelle de cette région. Et de dire qu'on appartient, d'un certain point de vue, à une très grande famille, très diverse, comme le sont souvent les familles. Dans un grand dîner de famille, il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. Mais au bout d'un moment, ils se retrouvent autour de valeurs communes. Il y a le fleuve de la République et il y a une rive droite et une rive gauche sur ce fleuve. Ils sont la rive droite, nous sommes la rive gauche, mais c'est le même fleuve. Voilà ce qui serait bienvenu encore de la part des dirigeants des Républicains pour optimiser les chances de battre Marine Le Pen dimanche prochain.
Alors vous faites ce sacrifice, en tout cas c'est le terme employé par le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, dès dimanche soir. C'est pas le cas en tout cas pour l'instant de Jean-Pierre Masseret, qui était tête de liste premier tour dans la région Grand Est. Lui, contrairement, il veut pas respecter la consigne de Solferino. Écoutez ce qu'on disait Bernard Roman, député du Nord à l'Assemblée nationale tout à l'heure.
C'est des petits arrangements, c'est aussi une forme de bras d'honneur qu'il fait à tous ceux qui, dans le Nord, par exemple, mais aussi dans d'autres régions, ont décidé de se retirer. Et ils l'ont fait pour les valeurs que nous défendons. Il me semblait que M. Masseret défendait les mêmes valeurs que moi.
Est-ce que c'est un bras d'honneur à votre décision ou est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de tenter de convaincre Jean-Pierre Masseret ?
Oui, je pense qu'il y a encore un dialogue, et puis surtout il y a un dialogue avec les élus locaux, avec les autres socialistes de cette région, pas simplement ceux qui étaient sur ces listes, mais ceux qui dirigent des mairies, des départements, et qui aujourd'hui sont en train probablement d'essayer de faire revenir sur sa décision. Moi, je ne participerai pas, je vais pas participer à la liste sur Masseret. Je pense que ce qu'il fait n'est pas responsable. Ce n'est pas, il ne joue pas collectif. En fait, le fond de l'affaire, il est là, il ne joue pas collectif et il met sa région en danger en faisant ce qu'il fait. Et après, l'entre-deux-tours est un moment extrêmement difficile, mais après, il y aura d'autres moments difficiles et dans ces moments-là, en fait, chacun se demandera qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire ? Aujourd'hui, nous, en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire.
Voilà. Lui, par exemple, il dit que c'est l'affrontement qui fait reculer le Front National. Et on pense à cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous avez perdu les départements, beaucoup de mairies. Vous serez plus présent à la région. Ça veut dire plus d'élus, plus de collaborateurs, plus de relais. Comment on part à la reconquête dans ces conditions, dans cette région-là ? Et même très prosaïquement, comment on prépare la bataille de 2017 ?
Bien sûr, la question de nos collaborateurs, moi je suis pleine j'ai de l'émotion pour eux, bien sûr. Mais enfin, ceci dit, moi je me suis engagée en politique, j'avais 17 ans, j'avais pas de collaborateurs, et j'ai fait de la politique et j'ai milité pendant des années avec mon engagement et mon temps libre. Les collaborateurs, les collectivités locales sont un point d'appui avant tout pour développer des politiques et changer les choses sur le terrain, faire adhérer les citoyens à la vision que nous avons d'un territoire. Mais je me refuse à penser qu'on ne peut faire de la politique qu'avec un mandat exécutif et du staff autour de soi. On peut faire de la politique autrement. Et j'ai envie de dire que, malheureusement, enfin, il y en a qui le prouvent en ce moment, qui sont partis de rien et qui sont aujourd'hui largement en situation. Peut-être on réapprendra à militer autrement. Et puis, dans ces régions, dans la mienne, il faudra aussi avoir un autre rapport avec ce qui se passe dans l'institution régionale. Parce que, quel que soit le gagnant, il y aura une vigilance citoyenne aussi à exercer sur les décisions et peut-être on va revenir à des formes plus traditionnelles de l'engagement et de la mobilisation des citoyens. Il ne s'agit pas de refaire des collectifs antifascistes, c'est pas ça le sujet, mais de suivre les politiques du Front National ou les politiques de la droite dans cette région et d'exercer sur eux une mobilisation.
Alors là, c'est vrai qu'on est dans la cuisine politique, c'est intéressant aussi, ça nous intéresse, mais il y a les fondamentaux, il y a dans le fond le terreau et les raisons pour lesquelles aujourd'hui le Front National est en tête. La culpabilisation des électeurs, ça ne marche pas, ça ne marche plus. La morale qui se fracasse sur le mur d'une réalité sociale, ça ne marche plus non plus. Donc, dans le fond, la solution aujourd'hui, elle est où ? Il y a un vrai rejet des partis gouvernementaux, soit la droite ou la gauche. Comment envisagez-vous le futur aujourd'hui pour contrer cette montée du Front National qui semble inexorable chaque année ?
Alors, J'avais pas l'impression de faire de la cuisine auparavant. Pardonnez-moi, j'avais l'impression de parler.
Enfin,
je répondais aux questions qu'on me posait. Et j'avais l'impression d'être quand même un peu positionné sur les principes qui nous ont guidés dans le deuxième tour.
Mais je vais vous répondre. Je vais répondre. De prospérer.
Je ne sais pas. En tous les cas, si on arrive à l'empêcher de prendre une région, on va quand même le bloquer un petit peu, ne serait-ce que dans les trois régions où il est en situation, on va le bloquer. Voilà, c'est pas la même chose d'être une force d'opposition que d'être une force d'exécution et de décision. Moi, je suis élue d'un département où, en 97, sept circonscriptions, sept triangulaires. Donc, le Front National, c'est pas une découverte récente. Mmh. C'est un mouvement qui vient de loin. Et si j'essaye ce que je fais souvent quand même, de comprendre ce qui s'est passé dans ces territoires, j'observe deux choses. La première, c'est la carte du vote FN ressemble terriblement à la carte du vote non au référendum européen de 2005. Et j'ai vu quelque chose basculer à partir de ce moment-là dans une région comme la mienne. Je parle pas de PACA parce que c'est pas le même électorat FN, je le connais beaucoup moins bien. J'ai vu quelque chose de basculer, et surtout ce que j'ai vu, c'est pas simplement une radicalisation contre l'Europe, c'est aussi un décrochage démocratique, pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, les gens ont voté. Ils ont voté non. Les Français ont voté non au référendum. Et le lendemain, on leur a dit, écoutez, vous avez voté non au référendum, mais on va faire comme si vous aviez voté oui. Et d'un certain point de vue, le message qu'on a passé à ce moment-là, ça a été de dire, quand vous votez, on fait ce qu'on veut après. Les gens ont répondu, bah, puisque vous faites ce que vous voulez, nous on va voter ce qu'on veut. Et même si ce qu'on veut, c'est n'importe
mais
quoi.
Mais le « on », en l'occurrence, c'est François Hollande, qui était à l'époque responsable. En l'occurrence, François Hollande a fait campagne pour le « oui ».
Oui.
Il l'a défendu. Il est aujourd'hui président de la République.
Oui, mais enfin, en 2005, François Hollande n'était pas président de la République. Il n'était en rien responsable de la politique du gouvernement. Et nous avons été absent du pouvoir de 2002 à 2012. Donc, on peut prendre une responsabilité, effectivement, dans le vote oui. Mais moi, je ne mets pas en cause...
Et inversement, Laurent Fabius est ministre...
Je ne mets pas en cause le choix des uns ou des autres de voter oui. Ce que j'observe, c'est que le vote des Français n'a pas été respecté. Et à partir de là, il y a eu un décrochage démocratique, c'est-à-dire le côté, on peut voter ce qu'on veut et n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'impact. Et vous ajoutez à ça, ce qui est dans notre région aussi un déterminant, des vieilles régions industrielles dans lesquelles les vieilles activités se sont progressivement effacées, qui étaient des activités qui étaient structurantes, pas simplement sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan collectif, dans le bassin minier, on était mineur, on avait tout un ensemble autour de soi, tout un collectif humain. Et tout cela s'est effiloché avec la fermeture de ces industries ou de ces exploitations. Et rien n'est venu le remplacer à la place. Le socialisme dit municipal, qui était particulièrement fort dans le Pas-de-Calais, est devenu de plus en plus difficile. En raison de l'accroissement du chômage.
Laurence Rossignol, vous êtes au pouvoir depuis 3 ans et demi. Vous êtes aussi comptable de ces scores.
Ah mais bien, à aucun moment je n'ai essayé de vous dire que nous n'étions pas co-responsables. Moi, être au gouvernement, être au pouvoir, c'est avoir bien entendu une responsabilité.
Mais comment en moins d'un an et demi, là, vous allez pouvoir renverser la vapeur et expliquer...
Par exemple, il y a des... Voilà, renverser la vapeur, expliquer les choses. Par exemple, ce matin, à la réunion de groupe, Christian Paul, lui, a exprimé, le chef de file des Frondeurs au congrès de Poitiers, a lui fait des suggestions.
Le Premier ministre ne doit pas abuser de son expression, parce que souvent elle divise la gauche et elle fait monter le Front National. Les Français qui font encore confiance à la gauche, et il y en a, on l'a vu dans ce premier tour, ils souhaitent qu'un gouvernement de gauche fasse une politique de gauche. Donc il faut un nouvel agenda politique. Si l'agenda politique après les élections régionales, c'est la régression du droit du travail et la déchéance de nationalité dans la Constitution, excusez-moi, ça ne va pas réunir la gauche pour 2017.
Voilà. Madame Rossignol. On a entendu Christian Paul, dont vous avez été proche, notamment au début de ce quinquennat, dans un collectif qui s'appelait la gauche du RAM, si je me trompe pas. Alors, est-ce qu'il faut faire une politique plus à gauche, sachant y compris là que dans ces régionales, on le voit, le Parti Socialiste a besoin des voix de gauche pour pouvoir gagner une élection?
Alors, faire une...
Le front de gauche s'effondre. C'est une double question.
Merci.
Oui, mais sans eux, vous ne gagnez pas. Et sans eux, vous ne passez pas le premier tour.
Bon, je suis désolée d'être venue entre les deux tours parce qu'il y a un temps pour le diagnostic et l'analyse et il y a un temps pour la mobilisation du second tour. Mmh. Nous sommes dans le temps de la mobilisation du deuxième tour. Et parce qu'il y a encore aujourd'hui des enjeux, dans différentes régions, soit faire battre le Front National comme dans la mienne, soit faire gagner la gauche rassemblée. Et j'observe que malgré tout ce qu'on peut dire sur la division de la gauche, partout, à peu près, la gauche se rassemble là où les formations Europe Écologie des Verts ou Front de Gauche sont en situation de le faire. Donc, la gauche est toujours capable de se rassembler. Elle préfère le faire au deuxième tour qu'au premier. C'est pas forcément une bonne idée parce que dans ma région, si on l'avait fait au premier tour, peut-être qu'on serait pas aujourd'hui obligé de faire ce qu'on va faire dimanche prochain. Mais donc, on n'est pas dans le temps de l'analyse sur l'instant et des conséquences à en tirer. Sur politique plus à gauche ou pas. Le premier moment, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire une politique plus à gauche ou une politique moins à gauche. Une des difficultés aujourd'hui que nous avons, c'est de mettre du contenu dans ce que veut dire une politique de gauche. Et ce que les gens attendent d'une politique de gauche, c'est pas de savoir si elle est enracinée, pas enracinée, c'est est-ce qu'elle est efficace dans la lutte contre le chômage. C'est ça la question, c'est celle de l'efficacité. Moi, on me dit, les gens veulent
une question de protection aussi.
Des questions de protection. Mais vous savez, sur les protections, peut-être on pourrait de temps en temps.
Il peut y avoir moins de chômage, mais plus de protection.
Sur le chômage, effectivement, l'attente des Français est absolument légitime et nos résultats ne viennent pas assez vite. Et je comprends qu'ils soient lassés, pas simplement nous, mais de toutes les années précédentes. Sur les protections collectives, je sais bien qu'il est de bon ton de dire du mal de la France, surtout quand on est très, très, très à gauche, de raconter qu'on vit dans un pays qui est un pays totalement en perdition. On vit quand même encore dans un pays dans lequel tous les enfants de 3 ans vont à l'école gratuitement. Vous en connaissez un autre ? Moi pas. Moi pas. On vit dans un pays où quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande pas votre carte vitale avant de vous sauver. D'abord on vous sauve, ensuite on vous demande si vous avez une carte vitale. On vit dans un pays où globalement, quoi qu'on en dise, les infrastructures, les services publics, les trains fonctionnent. Je suis dans une région qui a investi des millions pour rénover le matériel ferroviaire. On n'est pas dans un pays qui a abandonné les protections collectives. Et je trouve que depuis 3 ans, que ce soit en ce qui concerne la retraite, que ce soit en ce qui concerne la sécurité sociale, l'accès à la santé, que ce soit en ce qui concerne l'éducation, que ce soit la politique les politiques du vieillissement, 21 milliards d'euros par an, nous consacrons à l'accompagnement de la dépendance. Mais on a même plus conscience de la qualité de nos services publics, tellement il est de bon ton de tout le temps dénigrer même ce qui devrait être pour nous les talismans.
Laurence Rossignol, pardonnez-moi de vous interrompre. C'est vrai que vous avez raison sur le modèle social qui est très généreux en France. Mais justement, ce que le Front National, est-ce que ça montre pas non plus qu'il y a une France, il y a deux Frances dans le fond, une France qui est coupée en deux avec ceux qui ne risquent rien, qui sont les fonctionnaires, et ceux qui risquent tout parce qu'ils n'ont rien. C'est les jeunes qui même ont des diplômes. Donc est-ce que la gauche, là, est partie aussi responsable, comme la droite, de manque de réformes qui n'ont pas été faites peut-être sur le marché du travail, sur l'éducation où il y a un système très inégalitaire, hyper élitiste, en gros ce sont les fils de profs qui réussissent. Voilà, est-ce que vous avez su parfois dire non aux syndicats, est-ce que vous avez su, vous, être assez courageux pour faire tout cela, non ?
Ah non, mais là, on connaît la tenaille. D'un côté, on a les libéraux qui nous disent « Vous devriez aller plus loin, plus fort. » Et d'un autre côté, on a la gauche de la gauche qui nous disent « Ah, vous cédez tout aux libéraux. » Le résultat, c'est qu'on ne cède pas tout aux libéraux. Mais nous ne pratiquons pas, effectivement, la politique de démantèlement total des protections collectives et du Code du travail que les libéraux voudraient qu'on mette en place. La France, ce n'est pas Margaret Thatcher, et ce n'est pas non plus Schröder. Et c'est toute la difficulté de la gauche aujourd'hui, c'est de tenir cet équilibre et en même temps d'avoir des résultats économiques. Quant à ce que veulent les citoyens, c'est assez complexe. Je vois bien que dans un certain nombre de territoires, on a perdu des voix probablement parce que la gauche ne se retrouve pas totalement dans ce qu'on fait. Mais quant à Calais, dans la ville de la tête de liste, les Républicains, le Front National fait près de 50%. On ne fera pas croire que c'est parce que les gens trouvent qu'on ne fait pas une politique assez à gauche. Quand le Front National fait 50% à Calais, c'est un autre sujet. On est dans une ville où les gens ne supportent plus d'avoir à côté d'eux les migrants. Parce qu'on a aussi un deuxième sujet, ce qui fait d'ailleurs que c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous en ce moment. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui remettent en cause de vivre ensemble.
On va devoir bientôt s'arrêter. On va devoir s'arrêter sur le sujet de Calais. J'en suis désolée. Ouais, dans quelques secondes maintenant, ce sera les informations. Merci à vous pour cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve pour la deuxième avec Benoît Apparu, candidat Les Républicains.
Encore.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce mardi politique spécial régional. On revient là aussi dans cette deuxième partie sur les 6 millions de voix frontistes du premier tour. Le FN en tête dans 6 régions, en mesure d'en diriger 2, peut-être 3 dans quelques jours. Les partis de gouvernement à l'heure de la riposte, notre invité pour cette seconde demi-heure, Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne, porte-parole d'Alain Juppé. Bonsoir.
Bonsoir.
Et toujours à mes côtés dans ce studio, Lilian Alemania pour Libération et Roselyne Fèvre pour France 24. Alors Benoît Apparu, les résultats de la droite pour ce premier tour sont en dessous de ceux des régionales de 2010, qui étaient déjà à votre plus mauvais score sous la cinquième. Comment on en est arrivé à un tel échec pour votre parti ?
Écoutez, on parlera d'échec probablement plutôt au second tour qu'après le premier tour.
C'est quand même un très mauvais score.
Que ce soit un mauvais score, ou en tout cas que ce ne soit pas un bon score, c'est une évidence. Que ce soit parce que nous espérions les uns et les autres, c'est une évidence aussi. Maintenant, on verra le second tour. Ce que nous pouvons retenir les uns et les autres de ce premier tour, c'est quoi ? Score très moyen, pour ne pas dire très mauvais, de la gauche. Score très moyen, pour ne pas dire mauvais, effectivement, de la droite classique. Et explosion du Front National. En tout cas, grande envolée du Front National. Une fois qu'on a dit ça, on a fait un constat. Ce constat, me semble-t-il, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans l'exercice, c'est de dire que globalement, le comportement politique des partis politiques dits de gouvernement, dits traditionnels, a été plus que sévèrement jugé. Nous ne pourrons pas faire comme d'hab, c'est-à-dire des belles soirées électorales quasi larmoyantes où on se dit comment c'est possible, comment en est-on arrivé là, et ne rien changer 15 jours après. Nous allons devoir, cette fois-ci, après l'avoir dit 10 fois, après 15 scrutins de ce type-là, nous devrons en tirer les conséquences en matière de comportement politique. Ce que j'entends par comportement politique, c'est quoi ? Nous n'avons plus de crédibilité. La parole publique est totalement démonétisée. On peut dire tout ce que l'on veut, c'est considéré comme une promesse qui ne sera jamais tenue. La question va être, me semble-t-il, double. Un, comment on arrête le manichéisme traditionnel français ? Ou sous prétexte que la gauche dit quelque chose, on va dire que nous c'est mauvais. Ou à l'inverse, sous prétexte que le Front National dit quelque chose, on dira c'est des fachos, on prend pas. Ou à l'inverse là encore, une fois que nous on dira quelque chose, et la gauche et le Front National dira que c'est nul. Alors que certaines des propositions seront pas forcément inintéressantes en tant que telles. Nous devons sortir de ce manichéisme traditionnel français. Et puis surtout, nous devons, me semble-t-il, passer du dire, au faire. Passer de nos comportements politiques traditionnels qui sont exclusivement tournés vers la conquête électorale, vers le marketing politique, et non pas vers ce qui est l'essence même de notre action, l'essence même de notre métier, à savoir l'exercice du pouvoir. Nous devons maintenant nous organiser pour faire les choses et arrêter de les dire.
Alors là, j'ai l'impression que vous êtes un peu contradictoire, parce que vous dites sortir du manichéisme et arrêter le marketing politique. Pourtant, la décision que vous soutenez, qui a été prise au bureau politique donc hier, c'était de surtout pas fusionner avec les socialistes, alors que eux, justement, acceptaient cette idée-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, faire des majorités d'idées pour le bien de la nation et pour le bien du pays, vous le refusez. Comme il y a eu l'unité nationale, quand François Hollande dit qu'il faut des femmes et des hommes de devoir pour l'intérêt du pays, et là,
justement
vous dites le contraire de ce que...
Non, c'est pas du tout une contradiction, bien
mais,
au contraire.
Si, un peu.
Enfin, de votre point de vue.
Oui.
Permettez-moi d'en avoir un différent.
Je vous écoute.
Et essayez de m'exprimer là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce qui se fait dans le retrait, c'est de la majorité d'idées pour améliorer la situation du pays, ou est-ce que ça apparaît comme une mamaille électorale de gens qui se sont tapés dessus pendant des mois et qui se rabibochent uniquement pour garder des places ? Comment pensez-vous que les Français le prennent ? Ben moi, pour ce qui me concerne, je suis convaincu que les Français le prennent pour de la mamaille électorale, pour de la magouille, de deux camps qui se tapent dessus depuis 30 ans et qui uniquement pour conserver des places... Ben effectivement, font des retraits. Je suis pas convaincu du tout que ça marche et que ce soit pas vécu, au contraire, comme une opération de pur marketing électoral.
Alors, quelle place ? En tout cas, la gauche n'en aura plus hein, avec le système de retrait. Vous
c'est
dites
bien
mamaille.
Pour ça que nous avons refusé le retrait.
Vous dites mamaille. Eux, ils disent question morale. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement un piège politique pour vous hein ? Si le FN passe, les socialistes diront c'est la faute de la droite qui a pas fait cet effort. Si le FN ne passe pas, les socialistes diront c'est grâce à nous.
Il y a sûrement un piège, mais justement, la question, c'est qu'il faudra arrêter, un jour ou l'autre, de raisonner en matière de piège, en matière, là encore, je me répète, de conquête électorale, de pure conquête électorale. Ce qui devient dramatique, c'est qu'il n'y a plus un Français qui nous écoute pendant nos campagnes électorales, qui n'écoute plus les propositions que nous faisons à l'occasion d'une élection régionale, et qui vont voter sur d'autres considérants que l'élection régionale en tant que telle. C'est là ce qui symbolise, me semble-t-il, un échec collectif de la classe politique et que nous devons impérativement revisiter de fond en comble.
Benoît Paru, vous dites qu'il faut sortir du mémanichéisme français. En même temps, il y a d'autres pays où, quand il y a des élections à la proportionnelle, on n'appelle pas ça fusion, mais on appelle ça des coalitions. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on prend les deux programmes électoraux et on dit, voilà, on fait une coalition d'idées, notre programme de gouvernement, ça va être ça.
Angela Merkel
l'a fait. Est-ce que c'est pas possible en France?
Ce serait peut-être possible en France. Mais enfin, là, vous parlez d'un pays d'Allemagne qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas un Front National à 40% et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas 0% de croissance et 11% de chômage.
Oui, mais la droite et la gauche donc, se mettent ensemble pour faire des coalitions, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient
nationales. Les conseils régionaux, elles
s'entendent, bien sûr. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis simplement que nous avons des situations politiques qui n'ont strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Et que ce genre d'exercice dans un pays qui, culturellement, est assez différent, un pays latin, d'un pays un peu plus nordique de l'Allemagne, me semble beaucoup plus complexe à réaliser.
Donc vous enfin, n'êtes pas prêt point, à changer, Benoît Paru. Pourtant, vous êtes jeune, mais vous n'avez pas l'air de changer d'idée. Vous dites qu'il faut changer, et quand Lilian vous pose cette question qui est, pardonnez-moi, encore je dis ce que je pense, j'ai peut-être tort, frappé au coin du bon sens, vous refusez. Là encore,
ce que je vous propose, c'est juste de me laisser finir l'argument,
bah oui,
et vous verrez que vous peut-être on se retrouvera. Et peut-être on se retrouvera.
Nous vous écoutons.
Et donc, le faire au moment d'une élection régionale n'a pas du tout la même signification que le faire au moment d'une élection présidentielle puis législative. C'est pas du tout le même film. Deuxième élément. Troisième point, il vous aura peut-être échappé qu'il y a 3 ans, pas maintenant, il y a 3 ans j'ai proposé un gouvernement d'union nationale. Il y a 3 ans, il n'y a pas 6 mois, il n'y a pas 2 jours, il y a 3 ans. Bien avant que les uns et les autres en parlent. C'est une interview dans Le Point. Et donc j'assume totalement ce type de positionnement. Mais là encore, on ne fait pas un gouvernement d'union nationale pour le plaisir de le faire. On le fait parce qu'on a potentiellement, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
Vous croyez qu'avec les attentats, ce n'est pas le moment? Avec le Front National, ce n'est pas le moment?
Je pense que ce sera le moment quand nous aurons la capacité de nous mettre d'accord sur 10 réformes. Le gouvernement d'union nationale n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est les réformes qu'il y a à faire. Soit on arrive à se mettre d'accord sur 10 points précis sur un programme économique et social, et ça peut se tenter. Mais le faire exclusivement au nom de la montée du Front National serait, me semble-t-il, une erreur tragique. Une erreur, et j'assume le terme, tragique. Parce que là encore, ça signifierait quoi aux yeux des Français? Parce que le Front National progresse, ils se mettent ensemble pour conserver leur place. Ce serait vécu que comme ça. Conserver leur place. Nous ne pourrons le faire qu'à partir du moment où nous aurons une forme de base programmatique, je dirais pas idéologique, mais de base programmatique, où on se dira, ok, voilà les 5 réformes essentielles à faire, et on fait ça, non pas comme une finalité en soi pour conserver les places, mais pour faire les réformes que les Allemands, par exemple, ont fait.
Ouais, vous attendez Godot, quoi.
C'est votre point de vue, et vous avez le droit de le partager, bien évidemment. Je trouve simplement que c'est un peu facile, pour ne pas dire caricatural.
En tout cas, pour revenir sur cette vague FN qui ne cesse de monter depuis 30 ans, Laurence Rossignol disait tout à l'heure, elle vient de loin. Quelle analyse vous en faites? Est-ce qu'on n'est pas passé du vote de protestation au vote d'adhésion? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut proposer en face?
Je ne sais pas si c'est un vote d'adhésion ou un vote de protestation. C'est toujours très difficile à estimer. On sent, me semble-t-il, une première chose, c'est que la parole Front National s'est libérée. Il y a encore quelques années, avant de voir sur une interview de 20 heures le visage de quelqu'un revendiquant, assumant de voter Front National sans aucun problème et dire « je recommencerai la prochaine fois », c'était quelque chose d'assez rare. Donc il y a une forme, effectivement, de parole qui s'est libérée et une digue, entre guillemets, morale qui est tombée, très clairement. Donc là, on a une évolution majeure par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins que je reste convaincu, quand je vois la carte géographique du vote Front National, que le vote Front National est avant tout un vote économique. Quand vous regardez les cartes du chômage, les cartes de qualité de vie, les cartes démographiques françaises, elles sont un copier-coller avec celles du vote Front National. Quand ça va mal, le vote Front National est beaucoup plus haut que quand ça va un tout petit peu mieux.
Sauf que jusque-là, on parlait de ce vote énormément des classes populaires. On le voit aujourd'hui dans les enquêtes, on le voit à la manière dont le Front National recrute. C'est aussi des convictions qui infusent dans toutes les strates sociales. Là aussi, comment vous l'expliquez alors ?
Je l'explique par ce que je viens de vous dire.
C'est pas simplement un vote de souffrance à ce moment-là, on est dans un vote de conviction sur les valeurs, quand on est protégé par son statut, par ses revenus.
Je reste... Non, c'est pas si simple que ça, parce que vous avez quand même peur pour l'avenir, pour le vôtre, pour celui de vos enfants. Interrogez des fonctionnaires, ils vous répondront, certes, j'ai un emploi à vie, mais est-ce que vraiment ça restera un emploi à vie ? Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et je reste, mais je me trompe peut-être, convaincu pour ma part que c'est avant tout un vote de souffrance, ou en tout cas qu'il y a un fond de crise sous-jacent. Vous prenez la courbe des votes FN depuis 40 ans. Elle est totalement indiciée à la courbe de croissance ou à la courbe du chômage. Vous prenez tous les votes extrêmes dans le monde entier depuis 150 ans. Ce sont toujours les crises qui génèrent les votes extrémistes, qu'ils soient extrémistes de gauche ou extrémistes de droite. Et là encore, je me répète, prenez l'ensemble de ces données-là, prenez l'ensemble des cartographies du vote FN et comparez-les avec les cartes multicritères sur le niveau économique et social d'un territoire et vous verrez.
Bon, ces scores du FN, son impact sur la vie politique française, est-ce que ça serait, comme on le dit, autour de vous, chez vos amis, un échec personnel pour Nicolas Sarkozy ? On se souvient qu'il avait dit à l'automne 2014 qu'il revenait en politique parce qu'il estimait être le seul rempart face au FN.
Mais nous jugerons les uns et les autres si nous avons subi ou pas un échec dimanche prochain.
Mmh.
Si dimanche prochain nous sortons avec 3 régions, ou si dimanche prochain nous sortons avec 10 régions, ce ne sera pas tout à fait le même résultat. Donc pour l'instant, je juge, et je l'évoquais tout à l'heure, que nous avons collectivement subi effectivement un échec. Nous, les Républicains, et pas spécialement son chef, son sous-chef ou son vice-président, nous avons collectivement subi un échec. Nous verrons dimanche prochain, effectivement, en fonction du résultat, les conséquences qu'on en tire. En tout état de cause, et il l'a dit lui-même, avec un Front National à 40% dans 3 régions et avec 30% sur l'ensemble du territoire, les questions de stratégie vont mécaniquement se poser.
Alors, on va écouter ce que disait Nicolas Sarkozy hier soir à la télévision.
Quand je l'ai délivré, le discours de Grenoble, quand j'ai annoncé qu'on allait sortir de Schengen, quand j'ai créé le ministère d'identité nationale, vous avez été tout un tas à expliquer que c'était scandaleux de dire ça. Quand maintenant je vois que toute personne qui prend la parole parle de l'identité... Je sais un peu le problème. J'ai été le premier non seulement à en parler, mais à la mettre en œuvre.
Est-ce que c'est là-dessus, sur cette ligne-là, qu'il faudra avoir un débat lundi prochain ?
Oui et non. Ce qu'on vient d'entendre là, de Nicolas Sarkozy, est frappé au coin du bon sens. Sortir de Schengen, c'est globalement ce qu'est en train de dire aujourd'hui le président de la République, lui-même. C'est pas l'extrême droite qui
il
le dit.
Il l'a proposé pour la période de l'état d'urgence, pour des circonstances particulières de la COP.
Le discours du président de la République, j'y étais, vous l'avez entendu comme moi, à l'occasion de sa venue devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles, il a clairement dit, nous devrons renégocier Schengen. C'est ce qu'il a dit.
Pas pour mettre fin à la libre circulation.
Mais est-ce que Nicolas Sarkozy le dit à l'instant, pour mettre fin à la libre circulation des personnes ? Est-ce qu'il le dit ? Non. Donc effectivement, il y a... parce que les situations ont évolué, parce qu'il y a eu l'attentat, parce qu'il y a eu la crise des migrants, il y a effectivement des positions qui ont bougé. Et il a raison de dire que son discours de Grenoble est aujourd'hui quasiment repris par tout le monde. Il a raison de ce point de vue-là. Mais là où je dis non, c'est quoi ? C'est que nous ne pourrons pas résumer nos positions politiques exclusivement à ce sujet-là. Alors, si on en fait l'alpha et l'oméga de la vie politique française, là effectivement... on se plantera.
Alors, à entendre en off, hein, mes amis journalistes qui sont là le savent, c'est là comme la chanson de Souchon sur Nicolas Sarkozy, « T'avoir ta gueule à la récré ». Et ça, ça va être dimanche prochain. Tout le monde le dit que dimanche soir, ça va être la fête à Sarko. Mais dans le fond, puisque vous êtes tous d'accord, vous avez validé sa ligne, excepté deux personnalités, Raffarin et NKM, sur quel va être l'angle d'attaque. Parce que quand on entend Fillon ou Juppé qui disent il faudra faire notre examen de conscience dimanche prochain. Donc mais c'est quoi l'angle d'attaque ?
Je vous trouve absolument fascinante.
Ah merci.
Il y a 5 minutes, C'était vous changez rien, vous ne voulez pas changer, vous êtes conservateur et vous attendez que ça se passe.
Non mais je me demande quels vont être les angles d'attaque sur Nicolas Sarkozy.
Et maintenant que je vous dis à 30, entre 30 et 40% de Front National, peut-être qu'il faut s'interroger sur nos stratégies, vous avez quasiment le sentiment de penser que c'est peut-être pas nécessaire.
Est-ce que vous donnez un coup de pied aux fesses à Nicolas Sarkozy ou pas dimanche ?
C'est ça la question. Le résultat de dimanche soir, premier point. Deuxième point, c'est pas un coup de pied à Nicolas Sarkozy. Il a été élu président de l'UMP avec une grande majorité
des suffrages. Donc c'est le leader légitime.
La question.
Oui, tout le monde ne dit pas ça chez vous.
Enfin, écoutez,
Eric Woerth, justement, il y a des choses qui me fascinent.
Attendez, ne confondez pas les choses. Entre avoir un leader évident pour l'élection présidentielle et avoir un président légitime pour la formation des Républicains, c'est pas la même chose. Nous avons un président qui est légitime. Jusqu'à preuve du contraire, il a fait 65% au second tour de l'élection présidentielle. Il est légitime comme président de l'UMP. Est-ce que ça en fait naturellement un candidat à l'élection présidentielle évident, reconnu par tous ? La réponse est non.
Léon Lémanien.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que la parole Front National s'était libérée, qu'on disait qu'on votait Front National, y compris la parole raciste, c'est aussi libéré. En France, en reportage, on le remarque. Vous ne croyez pas que c'est aussi de la responsabilité de certains dirigeants de la famille politique à laquelle vous appartenez, qui a voulu coller aussi au discours de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen dans le Sud, pour reprendre Christian Estrosi, qui fait aussi que ça a légitimé ce discours du Front National, qui fait que les gens préfèrent l'original à la copie, comme on dit.
Alors, ce sont là encore, dans votre question, il y a plusieurs sujets, me semble-t-il, très différents. Est-ce que nous avons raison de donner le sentiment de faire un copier-coller du Front National et de courir quelque part après les idées du Front National ? Je ne le crois pas. À titre personnel, je pense que c'est une erreur stratégique et c'est peut-être l'une des discussions que nous devrons avoir à partir de lundi prochain. On verra en fonction là encore des résultats si la stratégie a été gagnante ou perdante. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit gagnante, en tout cas, c'est pas le sentiment qu'on peut avoir à écouter le premier tour. Mais là encore, attendons le second tour avant d'avoir ce type de débat-là. Deuxième élément, je me refuse à croire que dans ma région, 40% des gens sont racistes. Je suis désolé, dans ma région, le Front National fait 40%. Je me refuse à croire que le Front National, de ce point de vue-là, ne reflète que des points de vue racistes. Pour les électeurs, bien évidemment, je ne parle pas des dirigeants. Et donc, de ce point de vue-là, je ne le crois pas. Et aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui fait le poids électoral du Front National, ce n'est plus le racisme. Ce n'est plus ça qui fait progresser le Front National. Ça vaut peut-être 5%, 6%, 7% dans l'électorat, pas beaucoup plus.
Dans les enquêtes d'opinion, les Français qui se déclarent racistes, c'est à un niveau beaucoup plus élevé.
Ben, ils ne sont pas à 40%, heureusement. Et je ne sais pas quel est le taux.
On est à 33 selon les dernières enquêtes.
Un tiers des Français qui se déclarent racistes serait curieux de voir l'enquête, mais vous avez sans doute raison.
C'est une enquête au long cours du Cevipof.
Je ne l'ai pas en tête, on la regardera si vous voulez. Je vais le vérifier, mais je doute que 33% des Français se déclarent racistes. Ou alors, effectivement, ça pose une autre forme de problème. Mais je ne le crois pas pour ce qui me concerne.
Benoît Apparu, vous êtes donc un soutien d'Alain Juppé. On vient de le dire, 6 millions de Français ont voté pour le Front National. Est-ce que du coup la ligne d'Alain Juppé, qui est, on va dire, une ligne de recentrage par rapport à une droite, à une droitisation de la droite, ou à une droite forte, ou à une droite sarkozyste, on va dire, c'est une affaire de curseur. Est-ce que c'est bon pour Juppé, ça, ce recentrage?
Vous présupposez que les électeurs du Front National... présupposez, comme quasiment tout le monde d'ailleurs, que les électeurs du Front National sont tous des électeurs, entre guillemets, originaires de la droite. C'est un tout petit peu plus subtil que ça.
Oui,
et vous avez beaucoup d'électeurs
à gauche,
qui viennent de la gauche et qui votent Front National. Oui. L'électorat populaire, il est plutôt traditionnellement à gauche, et c'est bien l'électorat populaire qui a rejoint en masse le Front National. Donc, qualifié encore aujourd'hui, même si dans l'histoire...
25% là, aux derniers qui ont de l'UMP qui sont passés au FN. Donc c'est
25% qui sont passés au FN. Vous avez raison, c'est beaucoup.
Bah oui.
Mais il reste 75% a priori. Donc 75% ils viennent d'où?
Non, mais divisé en plus.
Si vous me dites 25% qui viennent de l'UMP, ça veut dire qu'il y en a 75% qui viennent d'ailleurs. C'est donc une très grande majorité qui vient d'ailleurs. Donc,
mais ils viennent pas tous de la gauche.
Je suis pas en train de vous dire ça. Oui, je suis en train de vous dire que considérer que par principe ils viennent tous de la droite me semble une erreur d'analyse sur le constat. Deuxième élément, je reste intimement convaincu pour ce qui me concerne qu'il y a une place idéologique en France pour une droite qui s'assume sans pour autant virer à l'extrême droite. Les droites françaises, elles sont diverses, elles sont différentes. Je vais pas faire mon René Raymond de base que je ne suis pas, mais il y a une multitude de droites françaises. Et je me refuse, pour ce qui me concerne, à n'être, entre guillemets, représenté que par une droite qui fera un copier-coller avec l'extrême droite. Ensuite, ce sont les Français qui trancheront. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent, c'est avant tout ce qu'on va appeler un homme d'État. C'est-à-dire qui fait passer l'intérêt général avant l'intérêt électoral, qui effectivement s'engage sur une série de réformes en essayant de convaincre les Français que lui, à la différence des autres, il les fera. Pour ça, ça nécessite une campagne sérieuse, crédible, qui sera peut-être pas la plus folichonne qui soit, mais qui au moins sera une campagne où les contenus seront respectés une fois qu'on sera au pouvoir. Et je pense qu'il y a une place pour cette politique-là.
Alors, Alain Juppé parle d'identité heureuse. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, ce concept, et en quoi ça peut parler à ces fameux électeurs perdus ?
L'identité heureuse, ça veut dire quoi ? L'identité heureuse, c'est peut-être une nouvelle façon de parler du patriotisme.
Oui.
Vous connaissez cette fameuse différence entre le nationalisme et le patriotisme. C'est un peu comme l'identité heureuse ou l'identité malheureuse. Le nationalisme, c'est être fier de ses valeurs, c'est être fier de sa nation et vouloir effectivement un maximum d'adhésion aux valeurs de cette nation. Le nationalisme, c'est rejeter tous les autres. Mais je fais la même différence entre l'identité heureuse. Je crois que nous pouvons dessiner en France un destin commun pour l'ensemble des citoyens français ou pour les étrangers qui habitent en France.
Même après les attentats ?
Même après les attentats. Oui, parce que là encore, les attentats, c'est une infime minorité. Que dis-je, une infime minorité ? C'est 10 personnes qui font des attentats. C'est pas 2%, 5% ou 25% des Français qui font des attentats, heureusement. Et 99,5% des Français dénoncent, ou des étrangers qui vivent sur le sol français, dénoncent ces attentats. Donc oui, je crois que nous pouvons fabriquer, ou en tout cas avoir pour ambition de retrouver cette identité heureuse.
Benoît Paru, vous avez...
C'est ça,
vous
faites... quelque part, l'optimisme qu'on doit avoir pour la France, le projet positif qu'on doit avoir pour la France. On ne peut pas se contenter d'avoir un projet qui consisterait à dénigrer en permanence l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs.
Vous faites visiblement la différence entre l'homme de conquête et l'homme d'État. Est-ce que dans quelle case vous mettez Sarkozy et dans quelle case vous mettez Juppé ?
Écoutez, pour ce qui me concerne, je suis là pour d'abord parler des élections régionales.
Oui, oui, oui.
La primaire viendra après.
Non, mais Anissa, après, vous posez une question.
Et après ces quelques secondes de langue de bois, revenons à votre question pour dire la chose suivante. Je ne suis pas là pour dire du mal de quelqu'un. Je suis là pour défendre quelqu'un. Et pour ce qui me concerne, pour la primaire qui arrivera après les régionales, je défends Alain Juppé, je dépeins Alain Juppé tel que je le vois, tel que je le perçois, tel que je le ressens.
Mais c'est un homme de conquête ou c'est un homme d'État ?
Et Alain Juppé est effectivement, me semble-t-il, l'archétype de l'homme d'État.
Oui. Vous parliez des primaires. On a bien compris que à partir de dimanche soir, lundi matin, ça va être très compliqué. Qu'elles ont déjà commencé en filigrane. Des primaires en novembre. Est-ce que ça n'est pas un peu trop tard ? Est-ce que vous allez réussir à tenir tout ce temps sans vous déchirer sur la place publique ? Après tout, pour y avancer, je ne sais pas, avant l'été.
Moi, je
sans
pense...
langue de bois, Benoît Paru.
Je pense qu'on peut effectivement. Nous sommes des grands garçons, je pense que nous avons tous vécu avec beaucoup de souffrance ce qui s'est passé pour la première élection en 2012 du président de l'UMP. Je suis pas convaincu que grand monde ait envie de revivre cette période-là, et j'espère que nous aurons tous la conscience que avec 30 à 40% de Front National dans notre pays en fonction des régions, nous avons peut-être autre chose à faire que nous taper dessus en permanence.
Donc sur langue de bois, il faut avancer la date des primaires ou pas ?
Ah bah, la réponse était dans la question, enfin dans la façon dont j'ai répondu.
Donc,
non,
vraiment,
c'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire.
Ça me paraît pas nécessaire, parce que je pense que nous aurons et que nous saurons avoir l'intelligence, effectivement, de ne pas nous taper dessus de façon bête et méchante à cette époque-là.
Voilà, c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous, Benoît Paru. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains et porte-parole d'Alain Juppé, Mardi Politique. Préparation Audrey Yatoni, réalisation Mathias Golchani. Rendez-vous à tous la semaine prochaine. Priorité.